France Info.
Bonjour Marc-Julienne.
Bonjour.
Ce sera l'une des images de la journée, les présidents français et chinois dans les Hautes-Pyrénées, sur les lieux où Emmanuel Macron passait ses vacances enfant, où il retourne régulièrement. Cette escapade un peu personnelle, ça peut vraiment servir à quelque chose? C'est apprécié par les Chinois?
De manière générale, je crois que c'est bien, c'est une visite d'État. Donc c'est un chef d'État qui vient rencontrer son homologue. Et je pense que c'est à ce moment-là, il y a très très peu de moments. C'est quand même seulement la troisième visite de Xi Jinping en France depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2012. Donc il faut exploiter ces visites le plus possible. Est-ce que ce sera utile? Ce n'est pas sûr. Ça marche peut-être beaucoup plus avec les chefs d'État occidentaux, démocratiques. Là, Emmanuel Macron reçoit le secrétaire général du Parti communiste chinois, beaucoup plus austère, qui a des objectifs beaucoup plus clairs. Donc on peut espérer qu'à la limite, les deux chefs d'État se comprennent mieux. Peut-être que Emmanuel Macron comprenne mieux son homologue. Est-ce qu'il y aura des impacts sur ce qu'on cherche à obtenir de lui? C'est pas sûr.
On se rappelle qu'à l'époque, Jacques Chirac avait fait pareil. Il avait aussi emmené le président chinois Jiang Zemin en Corrèze. Vous avez dit que c'est un moyen aussi de se retrouver tous les deux, c'est un moyen aussi de parler en privé de sujets un peu sensibles ou pas?
Oui, bien sûr, évidemment, et de mieux se comprendre. C'est quand même difficile de percer la boîte noire qu'est le Parti communiste chinois et surtout un parti qui est gouverné, un régime qui est gouverné par une seule et unique personne.
Il y a vraiment quelque chose à apprendre dans ce type de conversation?
Moi, je travaille tous les jours, par exemple, sur la politique chinoise et sur le Parti communiste. J'aimerais bien avoir un entretien avec Xi Jinping, puisque pour comprendre le Parti communiste, il faut comprendre Xi Jinping lui-même. Parce que c'est lui qui prend toutes les décisions. Qu'il l'incarne. Donc je pense que c'est une opportunité. Encore une fois, sur les résultats, est-ce que Emmanuel Macron, qui croit beaucoup, je pense, en son pouvoir de séduction des chefs d'État, est-ce qu'il arrivera à persuader Xi Jinping de nous aider sur des sujets comme l'Ukraine, sur les tensions commerciales? Je n'en suis pas sûr, parce qu'encore une fois, Xi Jinping est quelqu'un d'austère, il sait où sont ses intérêts, sait où sont ses objectifs.
On va rentrer dans les détails, effectivement, des sujets importants que vous venez d'évoquer. Xi Jinping invité en France avec tous les honneurs, eh bien, ça agace, surtout à gauche. Écoutez, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique, pour les européennes.
On peut discuter avec tout le monde, mais pas de cette manière. Pas en donnant, comme le dit l'Élysée, un cadre amical à cette visite. Parce que Xi Jinping n'est pas notre ami. Et ce n'est pas en flattant les tyrans qu'on fait preuve de réalisme. On a vu la stratégie d'Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine, les invitations au fort de Brégançon, la visite du musée de l'Ermitage, le camarade, l'ami. Et le résultat, eh bien, aucune influence.
Il a raison.
La question, c'est de la diplomatie, c'est de la réelle politique. Est-ce qu'il faut tenter ça? Je suis d'accord avec Raphaël Glucksmann sur le fait que ça n'a pas marché avec Vladimir Poutine. Est-ce que Emmanuel Macron a eu tort d'essayer quand il en a eu l'occasion? On pourrait refaire le match autant de fois qu'on veut. Je pense que là, encore une fois, il y a une opportunité. Et je suis pas sûr que ces opportunités vont se renouveler tant que ça à l'avenir, puisque on le voit bien sur les sujets de politique internationale, d'économie, voire sur les échanges bilatéraux, les échanges humains, culturels, la relation avec la Chine se tend. Donc là, on est encore dans une sorte de période de grâce, c'est peut-être un peu surestimé, mais ce que je veux dire, c'est que depuis la visite de Emmanuel Macron en Chine l'année dernière, en avril 2023, la relation est officiellement positive. En réalité, on sait bien que sous ces déclarations positives, sous cet agenda bilatéral positif, en réalité, on voit que ça se craque. Il y a beaucoup de divergences.
Des divergences d'intérêts structurels.
Bien sûr.
Entrons dans le détail. L'un des objectifs français, européens de cette visite d'État chinois, c'est le rééquilibrage économique. Si on s'en tient aux chiffres qui étaient rappelés ce matin sur France Info, la relation commerciale avec la Chine a tourné très largement à l'avantage de Pékin. On importe 46 milliards d'euros de plus de biens ou de services chinois qu'on en exporte, 400 milliards au niveau européen. Qu'est-ce qu'on a raté depuis 20 ans?
Oui, il y a eu une asymétrie de cette relation. C'est ce qu'on essaye de rééquilibrer aujourd'hui. Le fait que l'Europe et donc la France est un marché ouvert, libre, et que la Chine ne l'a jamais été. Et aujourd'hui, on l'a toléré pendant longtemps parce que les intérêts étaient plus importants que les coûts, que ce que ça nous desservait, les pertes. Aujourd'hui, on est en train de rééquilibrer ça parce que la Chine a changé. La Chine est aujourd'hui la deuxième économie mondiale et donc elle a une force de frappe qui aujourd'hui peut menacer les intérêts économiques de l'Europe et intérêts industriels, économiques, aussi en termes de propriété intellectuelle. Et donc, c'est ce que la Commission européenne s'efforce de faire aujourd'hui.
Là, il y a 5 ans, la Commission européenne disait partenaire, concurrent, rival systémique sur la question de la démocratie. Mais est-ce qu'on n'est pas devenu vraiment des rivaux systémiques aussi au niveau de l'économie?
Alors, c'est toujours la compétition. Mais oui, il y a une rivalité systémique dans le sens où le système économique chinois n'est pas compatible avec les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui, et qu'aujourd'hui on n'arrive pas, on a des difficultés à négocier avec la Chine pour justement avoir plus d'égalité dans les traitements à la fois du commerce mais aussi des investissements.
C'est important ce que vous nous dites, ça veut dire qu'on était complètement naïf quand on pensait que la Chine allait nous ouvrir grand son marché, comme l'a encore répété d'ailleurs dans une tribune Xi Jinping en arrivant en France.
Alors, il y a sans doute eu beaucoup de naïveté avec la Chine pendant longtemps, encore une fois, parce que en termes de coûts-bénéfices, il y avait sans doute plus d'intérêt pour les Européens. Et aujourd'hui, on se réveille peut-être un peu brutalement sur certains aspects. Peut-être qu'on parlera aussi des questions d'ingérence aujourd'hui qui sortent. Donc oui, effectivement. Mais j'étais beaucoup plus critique il y a certaines années, puisque j'avais l'impression que le réveil était un peu trop lent. Là, quand on regarde toutes les mesures qui ont été prises par la Commission européenne et de manière générale par l'Union européenne ces derniers mois, depuis à peu près un an, les choses arrivent. Et le fait est que dans le domaine des enquêtes, par exemple, dans le domaine des véhicules électriques, dont on a beaucoup parlé, mais c'est aussi les enquêtes de la Commission dans les anti-subventions en Chine, c'est aussi dans le domaine des panneaux photovoltaïques, de l'éolien.
Tout ce qu'on importe massivement,
voilà,
en fait.
Voilà. Et dans des domaines assez stratégiques quand même, et qui pourraient avoir des effets extrêmement délétères sur nos industries européennes.
Le temps de la naïveté européenne est révolu, hein, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Vous parliez de la différence de standard entre l'économie chinoise et l'économie française européenne. À ce niveau, les importations qui nous viennent de Chine ne sont pas au même niveau, j'allais dire, des exigences écologiques. Est-ce que les 27, dans ce cadre-là, devraient avoir une politique plus protectionniste? C'est-à-dire, voilà, on a donné l'exemple des panneaux photovoltaïques, on a donné l'exemple des voitures électriques. Est-ce qu'il ne faut pas y aller un peu plus fort, au risque d'avoir une réaction chinoise?
Oui, le terme protectionniste est un peu tabou parfois, mais c'est ce qu'il est en train de se passer. Et en fait, on est les derniers finalement à prendre ce chemin-là. Les États-Unis, avec leur America First, ont pris cette voie-là depuis bien longtemps. Et la Chine, je le disais, a toujours été dans cette voie.
Pourquoi on est les derniers? Par naïveté ou parce que simplement parce que le rapport de force est défavorable?
Parce qu'on a des traités européens et qui sont basés sur les règles du commerce international, c'est-à-dire celles de l'OMC, et qu'on les respecte à la lettre.
Mais aussi parce qu'on est désunis aussi au niveau européen. L'Allemagne est beaucoup plus dépendante des importations chinoise que nous, la France, par exemple.
Alors, il y a des signes de désunion. Le fait est que Olaf Scholz n'était pas présent,
le
chancelier allemand, lors de la réunion. Le fait est qu'il est allé en Chine au mois d'avril sans aucun affichage européen, c'est-à-dire sans même emporter avec lui des membres de l'Union européenne, mais même sans parler de l'Europe. Donc, c'est un sujet. Après, il n'y a pas que la France et l'Allemagne dans l'Union européenne. Oui. Et en réalité, le consensus s'élargit, s'approfondit au sein des États membres. Et d'ailleurs, ce que fait la Commission européenne, elle ne le fait pas simplement parce qu'elle s'auto-saisit. Il y a un consensus sur justement cette menace et risques économiques qui nous viennent de Chine.
Mais encore une fois, sur le rapport de force, dès qu'on met une barrière, les Chinois disent on va taxer vos Bordeaux, vos Cognac et on rentre dans notre coquille. Le rapport de force est défavorable?
Non, je pense que l'Union européenne a énormément de leviers. Rappelons quand même que l'économie chinoise aujourd'hui est en grande difficulté. Il y a un ralentissement économique qui est extrêmement fort. Il y a l'une des deux jambes de l'économie chinoise qui a été amputée, c'est l'immobilier qui s'est effondré. Il y a du chômage chez les jeunes qui est extrêmement élevé. Il y a des difficultés, je m'en réjouis pas du tout, c'est même plutôt une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale. Mais il y a des difficultés en Chine, et il se trouve que le premier partenaire commercial de la Chine, c'est l'Union européenne, et que le deuxième partenaire, qui sont les États-Unis, ferment leur marché de plus en plus à la Chine. Et eux, ils n'ont pas besoin de trouver une position unifiée aux États-Unis. Donc, par exemple, sur les véhicules électriques, sur beaucoup de technologies, par exemple Huawei, sur la 5G, etc., eux, le débat est réglé depuis bien longtemps. Ils ont tout simplement interdit l'importation de ces technologies ou de ces produits-là. Donc, l'Europe est encore plus importante pour la Chine qu'elle ne l'était hier.
Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Brakia.
Et nous sommes toujours avec Marc Julien, spécialiste de la Chine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Autre enjeu de cette visite d'État du président chinois, la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut compter sur la Chine pour jouer les intermédiaires, les médiateurs dans le conflit Ukraine-Russie?
Je ne crois pas. Depuis le début du conflit, la Chine n'a montré aucun signe de jouer un rôle actif et constructif dans cette guerre. Officiellement, la Chine clame une position de neutralité, mais dont personne n'est dupe et dont personne n'a été dupe. La Chine soutient politiquement Vladimir Poutine. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle le soutient ou est-ce qu'elle le soutiendra sur le plan militaire? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que ce sera le cas, parce que je crois que la Chine n'a pas intérêt à cela. Mais donc, est-ce que nous, on peut essayer de convaincre Xi Jinping, de convaincre Vladimir Poutine, je pense que c'est un peu illusoire.
Marc-Julien, il faut que vous nous aidiez à décrypter une phrase du secrétaire d'État, du chef de la diplomatie américaine il y a quelques jours. Il disait « Sans la Chine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine serait plus difficile. » Sans la Chine, qu'est-ce qu'il entend par là? En quoi la Chine facilite-t-elle la guerre de la Russie?
Tout à fait. Je viens de dire que la Chine n'aidait pas militairement Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'elle ne transfère pas des armes stricto sensu, des armes létales.
Oui.
En revanche, la Chine soutient la Russie de manière générale et en particulier l'économie russe. Mmh. Par exemple, la Chine aujourd'hui est un des plus gros clients en termes du pétrole russe. Donc en achetant le pétrole, elle alimente l'économie russe avec des devises, avec de l'argent.
Les échanges commerciaux
ont bondi, notamment, et c'est ce que pointent les Américains et Anthony Blinken en particulier, c'est que la Chine fournit notamment des machines-outils qui servent pour l'outil industriel russe et notamment pour la production des machines qui servent à construire des machines de guerre.
Des drones,
et des produits qui sont à double usage, donc des produits qui sont civils, que vous et moi nous pouvons acheter, mais qui sont utilisés ensuite de manière militaire. Et donc c'est par exemple les drones, qui sont des drones civils qu'on peut trouver dans le commerce, mais qui peuvent emporter des charges militaires et donc qui sont utilisés sur le théâtre ukrainien.
Mais ce que vous dites là aujourd'hui, ce matin, là, sur le plateau de France Info, j'imagine qu'Emmanuel Macron le sait. Alors pourquoi il demande quand même à Xi Jinping d'intervenir dans le dossier ukrainien et russe?
Alors, Emmanuel Macron demande deux choses, en réalité, à Xi Jinping. Il demande que Xi Jinping nous aide, d'une certaine manière, à faire entendre raison à Vladimir Poutine, d'utiliser les leviers qu'il a. Et c'est vrai, évidemment, que Xi Jinping a des leviers. La question est qu'il ne souhaite pas les utiliser.
Oui, parce que vous dites qu'il y gagne, en fait.
En tout cas, il gagne à ne pas s'impliquer.
Ouais.
La Chine gagne à rester en dehors du conflit. Donc, d'un côté, il essaie de convaincre Xi Jinping de nous aider à convaincre Vladimir Poutine, mais de l'autre côté, il cherche à dissuader, et ça a été dit très clairement dans les déclarations du président, à dissuader Xi Jinping d'aider plus avant Vladimir Poutine dans son appareil de guerre.
Mmh.
Et donc, là-dessus... Je pense qu'il y a une sorte de contradiction entre ces deux positions. Oui. Mais ce qu'on demande là aujourd'hui, ce n'est pas vraiment, puisque tout le monde est d'accord pour dire que la Chine ne transmet pas d'armes létales stricto sensu en Russie.
Oui.
En revanche, on demande à la Chine de surveiller beaucoup plus précisément les transferts de technologies et de produits qui sont envoyés vers la Russie et qui peuvent être utilisés à des fins militaires.
Pourquoi la Chine n'a-t-elle jamais explicitement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie ?
Pour une raison assez simple, c'est que, et en fait, il ne s'en cache pas vraiment, Vladimir Poutine est l'ami de Xi Jinping.
Mmh. Amitié indéfectible.
Voilà. Alors,
sans limite, comme
le général de Gaulle disait, en relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et je pense qu'en réalité, c'est le cas. Je ne crois pas pleinement à l'amitié entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. En revanche, de l'intérêt stratégique des deux États à se coordonner et à travailler ensemble, ça, c'est très clair. Les deux ont un ennemi commun, ce sont les États-Unis. C'est même plus généralement, finalement, le système international qui est basé donc, sur le système de 1945 sur des valeurs plutôt démocratiques et que ces deux pays cherchent à contrarier.
C'est quoi, c'est le retour de la guerre froide, même si ce terme a été un peu galvaudé entre-temps, mais c'est quoi ? C'est un partenariat des deux puissances Chine-Russie contre le monde occidental ?
Alors, il y a un peu plus que Chine-Russie. Si c'était seulement Chine-Russie, à la limite, ce serait bien. Mais non, il y a beaucoup de pays libéraux comme le Venezuela, l'Iran, la Biélorussie, qui sont plus larges. Mais en tout cas, voilà, il y a une volonté de coordination entre les deux. Et en fait, dans ce partenariat stratégique entre la Chine et la Russie, qui est extrêmement important, l'Ukraine est secondaire pour la Chine. La Chine considère que l'Ukraine est un conflit en Europe, entre Européens. Le président Xi Jinping l'a dit très clairement hier à Paris, la Chine n'est pas partie prenante de ce conflit et entend rester hors du conflit.
La Chine n'est pas partie prenante, mais quand on parlait de guerre froide à l'instant avec Salia, ce soir, le président chinois est en Serbie. Aujourd'hui, le 7 mai, c'est le 25e anniversaire du bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade par l'OTAN, qui a fait 3 morts. C'est une manière de rappeler dans quel camp se trouve la Chine pour Xi
Jinping. Oui, absolument. Et là, on voit bien l'agenda européen de Xi Jinping.
Donc, il n'y a pas de neutralité de la part de Xi Jinping.
Absolument pas. Cette neutralité est de façade. Cette neutralité, que je précise bien, elle est officielle. C'est le discours officiel de la Chine. Mais je l'ai bien dit, personne n'est dupe de cette neutralité. En allant en Serbie, c'est une volonté de rappeler, justement, de commémorer cet anniversaire anti-OTAN, anti-américain. Et juste après la Serbie, Xi Jinping se rendra pour une visite d'État de 3 jours en Hongrie, qui est membre de l'Union européenne, contrairement à la Serbie, mais qui est un membre de l'Union européenne assez turbulent, assez contestataire, à la fois des valeurs démocratiques libérales, mais aussi des institutions européennes de manière générale.
Ce qui est intéressant dans les positions affichées par la Chine, on a parlé des positions en rapport avec le conflit ukrainien, il y a aussi la guerre à Gaza, les mots de la Chine sont forts, une honte pour la civilisation, Pékin qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la création d'un État palestinien pleinement membre des Nations Unies. Les mots sont forts, mais pas forcément les actes.
Oui, tout à fait. Alors là, il y a une position évidemment un tout petit peu différente sur l'Ukraine, de la part de la Chine sur l'Ukraine que sur le Moyen-Orient.
Ils s'engagent plus.
Ils s'engagent plus, alors verbalement, parce que c'est beaucoup plus timoré sur l'Ukraine et sur la responsabilité du conflit. Sur le Moyen-Orient, la Chine a une position très stable, constante, historique. C'est une solution à deux États. Elle ne l'a jamais caché. Après, est-ce qu'elle a vraiment travaillé dans ce sens ? Il y a peu d'éléments, mais la Chine, pour le coup, autant j'ai peu d'illusions, je n'ai pas d'illusions sur le théâtre ukrainien, autant au Moyen-Orient, la Chine est très proche de la plupart des États, et notamment l'Iran, qui est un acteur important, et elle a intérêt, tout comme la France, et c'est ce qu'a rappelé le président de la République, à ce qu'il n'y ait pas d'escalade. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde s'est fait assez peur quand il y a eu une montée des tensions entre Israël et l'Iran récemment. Et là, la Chine peut jouer un rôle, puisque ce n'est absolument pas dans son intérêt de voir monter une escalade. Et effectivement, on voit un discours qui reste stable, mais qui est beaucoup plus affirmé sur la solution à deux États en Palestine. Et également, le fait qu'il y a eu des négociations récentes. La date n'a pas été officiellement dévoilée à Pékin entre des responsables du Fatah et des responsables du Hamas.
Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Drakia.
Et Marc Julien, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, vient de déposer plainte pour une tentative de cyberattaque chinoise. Il l'a appris par les autorités américaines. D'autres parlementaires européens sont visés. Est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle une guerre hybride avec les Chinois ?
Oui, dans une guerre hybride, dans une guerre d'influence, certainement. François-Xavier Bellamy donc n'est pas le seul. Il y a sept parlementaires français, Sénat, Assemblée nationale et Parlement européen. Et puis, en fait, c'est une manœuvre beaucoup plus large de la part de l'espionnage chinois, puisque en réalité, il y a plus d'une centaine de parlementaires à travers le monde, dans une quinzaine de pays, qui ont été visés, qui font partie d'une organisation très clairement critique de la part de la Chine.
Ils interviennent de manière volontariste dans notre espace public, ils font des cyberattaques, ils ciblent tel ou tel député.
Alors, ces derniers temps, on a vu un grand nombre de révélations, hein, notamment par envoyé spécial et Challenge récemment, sur une tentative de rapatriement forcé d'un ressortissant chinois, de l'espionnage. Là, on parle du groupe.
Ce sont des commissariats, par exemple, cachés, dont on parle, Paris, avec des arrestations.
C'est ça, il y en a quatre qui ont été identifiés à Paris et en région parisienne. Donc, oui, il y a des manœuvres. Donc, la Chine a été relativement discrète. Il faut dire que les autorités françaises ont également été très discrètes sur ces opérations-là, dont parfois nous en avions connaissance. Parfois, ont été révélées
des personnes enlevées sur le sol français. Ça fait partie des choses, par exemple, dont on parle dans une discussion comme celle que vont avoir tout à l'heure Emmanuel Macron et Xi Jinping.
Je ne sais pas, mais je l'espère. Je n'ai pas d'informations.
Pourquoi déjà François-Xavier Bellamy l'a appris par les autorités américaines ? Pourquoi ce n'est pas les autorités françaises qui lui ont appris qu'il avait subi une cyberattaque par les Chinois ?
C'est une très bonne question. En réalité, il y a une enquête de la part du FBI et du département de la justice américain qui a enquêté sur un groupe de hackers qui s'appelle APT31 et qui ont découvert de par cette enquête que d'autres parlementaires en français et d'autres pays qui ont été ciblés. Donc, ils en ont informé les premiers concernés. Alors, les autorités françaises, notamment la sécurité intérieure, étaient déjà au courant, puisque certains députés et sénateurs comme André Gattolin, comme Anne Genentet...
C'était déjà arrivé, effectivement.
Ont été prévenus par les services de sécurité français. Donc, c'est pas une vérité générale. Mais en tout cas, là, sur ce plan-là, ce sont les Américains qui nous ont prévenus.
Hier, la cellule d'investigation de Radio France publiait des témoignages de hauts fonctionnaires français sur la stratégie chinoise dans le Pacifique, enfin plus largement d'ailleurs aussi dans l'océan Indien, dans la zone Pacifique. La Chine s'est déjà payé les Vanuatu et les Salomon et elle attend que la Nouvelle-Calédonie lui tombe toute cuite dans la main d'ici 40 à 50 ans. C'est ce que disait ce haut fonctionnaire à Radio France. On joue à se faire peur ou c'est une réalité ?
C'est dit de manière un peu peut-être, ça manque un tout petit peu de nuance, mais il y a une réalité de l'influence chinoise dans le Pacifique Sud et dans les territoires français d'outre-mer. Et la Nouvelle-Calédonie est un sujet où ça a été documenté.
Elle agit comment la Chine là-bas ?
Eh bien, il y a des connexions très fortes entre des ressortissants chinois, certains liés au gouvernement et au renseignement, qui sont proches d'indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, par exemple.
De la bonne vieille agite propre.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, il y a une volonté. Alors, après, là où je mettrais un tout petit peu plus de nuance, c'est que la Chine le fait. La personne que vous mentionnez a cité les îles Salomon et le Vanuatu, où il y a eu, avec les îles Salomon, un partenariat de sécurité qui a été signé il y a à peu près un an et demi, qui a été une sorte de coup de tonnerre dans cette région du monde assez peu surveillée, assez peu couverte par les grands médias. Mais en réalité, ça a été... Finalement, en fait, la Chine a dévoilé ses cartes, a dévoilé son jeu avec des manœuvres d'influence extrêmement fortes. Et depuis, il y a eu une prise de conscience, un réveil retour extrêmement fort, voilà, un réveil des Américains, des Australiens, des Français, des Britanniques.
Marc Julien, parmi les autres sujets qui fâchent la Chine, il y a la question des Ouïghours. Selon les défenseurs des droits de l'homme, plus d'un million et demi de Ouïghours et d'autres minorités majoritairement musulmanes sont ou ont été détenus dans des camps dans la région chinoise du Xinjiang. Je ne savais pas si je le prononce bien, c'est le
Xinjiang.
Xinjiang, merci beaucoup. Ce qui se passe sur place dans cette région chinoise, c'est un génocide ou pas ?
Il y a toutes les indications d'un génocide si on s'en réfère à le traité international qui régit justement le crime de génocide. Il y a quatre critères, je ne vais pas revenir en détail, mais en tout cas il y a des indications extrêmement fortes. Pour certains, on a des éléments de preuve. Tant qu'il n'y a pas une enquête internationale et une juridiction internationale qui s'y penche, ce sera difficile de le dire de manière claire et définitive. Et c'est là le problème, c'est que les autorités chinoises donc ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire qu'évidemment, aucune enquête internationale aucun enquêteur de l'ONU n'a pu accéder pour mener ces enquêtes-là. Et aujourd'hui, même pour les journalistes, c'est extrêmement difficile de s'y rendre puisqu'ils sont surveillés, suivis par la police.
Parce que Pékin dément toute atteinte aux droits de l'homme et affirme que les camps de travail permettent de fournir une formation professionnelle aux populations locales et de lutter aussi contre l'extrémisme.
C'est ça. Alors, nous, en Occident, et les experts qui ont travaillé sur le sujet, parlent de camps de rééducation. La Chine, officiellement, parle de centres de transformation par l'éducation. Vous voyez qu'on n'est pas très, très loin en termes d'analyse. Donc oui, alors c'est un système carcéral qui est très complexe. Il y a des véritables prisons, il y a des camps de travail, il y a des centres de rééducation, donc de déradicalisation, comme on pourrait les appeler ici. Tout ça évolue. C'est pour ça que c'est difficile à suivre, c'est difficile d'enquêter sur ce sujet. Et je salue le travail, d'ailleurs, de journalistes français, notamment vos confrères d'LCI, en Chine, qui ont fait des enquêtes extrêmement intéressantes là-dessus.
Et les sanctions européennes n'ont aucun effet ?
Non, très peu d'effets. Il y a eu des sanctions européennes en 2021 sur
des individus
et une organisation au Xinjiang, c'est-à-dire des officiels chinois. Et ces sanctions ont subi des représailles chinoises sur des parlementaires européens et de...
Raphaël Glucksmann, par exemple, était interdit de territoire.
Voilà. Ouais. Et y compris d'ailleurs des chercheurs français, et notamment mes confrères du Mérix à Berlin.
Marc Julien, on vient de passer une demi-heure à parler de cette visite de Xi Jinping ici sur un média français. À l'inverse, est-ce que les Chinois, ça les intéresse, cette visite de leur président en Chine? Est-ce que les médias en parlent beaucoup et en quels termes ?
Alors oui, très bonne question. Je regardais justement la presse chinoise ce matin. Alors évidemment que les médias chinois traitent énormément cette question-là parce que pour la simple raison que Xi Jinping est présent en France et Xi Jinping, il faut le dire, fait très souvent, si ce n'est tous les jours, la une des journaux. Donc aujourd'hui, Xi Jinping fait et la France donc est à la une des journaux chinois. Mais avec surtout les déclarations de Xi Jinping, avec une vision peut-être irénique et constructive et sur l'amitié franco-chinoise, alors que côté français, la vision est un peu plus nuancée. Et oui, effectivement, on essaie de développer l'amitié franco-chinoise, mais on voit bien qu'il y a des tensions très fortes, et on en a parlé sur l'économie notamment.
Et vous nous avez aidé ce matin à les comprendre, ces tensions. Merci beaucoup.
Merci
Marc Julien, directeur du Centre Asie de l'IFRI.